radio en direct, émissions à la demande, podcasts originaux. Découvrez l'application Radio France. Toutes vos radios en une seule application.
France Musique.
France Musique. Les grands entretiens. Judith Chen.
Bonjour, je m'appelle Hélène Grimaud. Je suis née à Aix-en-Provence en 1969 et je suis musicienne.
Avec le temps, est-ce que votre rapport au récital a changé? Cet exercice du récital, qui est quand même propre quasiment essentiellement au pianiste, qui est très particulier, la responsabilité entière qui repose sur l'artiste.
Oui, c'est une toute autre discipline, le récital, ça n'a plus rien à voir. Et d'ailleurs, quand j'étais jeune, je préférais jouer avec orchestre, parce que je trouvais ça beaucoup plus porteur. Je trouvais cet échange comme ça électrique et aussi on avait la possibilité de se poser pour plus de jours. Donc jouer avec orchestre, ça veut quand même dire, surtout quand on a la chance de jouer avec l'orchestre local. Si on est en tournée, c'est encore autre chose, mais encore que c'est très beau aussi parce qu'on voit le lien évoluer sur la longueur, ça c'est aussi fantastique. Mais quand on travaille avec un orchestre local de la ville où on se rend, c'est quand même très agréable parce que vous avez des répétitions, vous avez en général au moins deux, si ce n'est trois. Donc il y avait cet aspect-là également, d'avoir l'impression de créer des liens, de se poser. Ça y contribuait aussi. Mais maintenant, c'est le contraire, je crois. Pour moi, en tout cas, j'ai appris à aimer le récital. Oui. Mais c'est exactement ce que vous avez dit, comme vous le décrivez, c'est tout à fait juste. C'est un autre niveau de responsabilité. C'est une expérience, comme j'ai essayé de la décrire, presque religieuse. En tout cas, c'est spirituel. Et ça n'a, je ne dirais pas que ça n'a plus rien à voir, c'est outré, mais c'est très différent quand même, oui.
Une forme de transe.
Oui. Enfin, dans le meilleur des cas, encore une fois.
Hein. Justement, ça ne se commande pas. Comment est-ce qu'on vit quand les choses, quand ça ne s'est pas produit?
Eh bien, avec humilité, il faut accepter le fait que, encore une fois, ça n'est pas... Rien n'est automatique, il n'y a pas de recette, hein. Ce serait trop facile. La seule chose que l'on puisse faire, c'est de mettre toutes les chances de son côté en ayant travaillé et en y allant avec confiance et sérénité. Ça n'est possible que par le travail au préalable. Et après aussi avoir conscience de l'aspect incontrôlable, magie noire de ce moment et avoir la sagesse de l'accepter. L'idée, ce n'est pas de gagner la partie, ni même pas sur soi-même. C'est de permettre qu'une émotion puisse se développer, qui puisse altérer le temps. Mais ça, c'est l'affaire de... On revient à Claudio Abbado qui me disait toujours, mais les gens ne se rendent pas compte, les gens pensent qu'un concert, c'est une performance athlétique du début à la fin. Rien ne pourrait être moins vrai. Un concert réussi, c'est l'affaire d'une fraction de seconde. C'est est-ce que le temps s'est arrêté? Il dit ça, ça ne se passe pas chaque fois, et en aucun cas pendant tout le concert non plus. Mais c'est ça qui fait que le concert aura valu la peine. Mais il y a toujours un prix à payer pour, et il faut quand même en avoir conscience, voilà, avant de le commencer, aussi pour pouvoir accepter tout ce qui peut se produire.
Souvent, vous évoquez le chamanisme.
Oui, c'est-à-dire qu'on est instrument. En fait, ça n'est pas plus, ni plus ni moins que ça. Voilà. Et donc, heureusement qu'on est guide de quelque chose et qu'on peut prendre les gens par la main, par le cœur et se laisser prendre en retour, parce qu'on reçoit tellement aussi de cette expérience du concert. Donc, c'est cette idée, voilà, de rendre la vie plus douce en donnant tout ce qui peut être donné dans l'instant et après le laisser prendre vie chez l'autre, quoi.
Vous avez évoqué dans votre livre Renaître, qui paraît ces jours-ci, qui est comme, je disais, un regard sur le passé, mais aussi sur demain, une sorte de point d'étape, un pivot de cette conversation que vous avez avec vous-même et puis avec votre ami et éditeur Stéphane Barsac. Vous évoquez comme ça beaucoup de choses de votre parcours. Vous évoquez aussi ce moment de la maladie qui vous met dans un moment dans un doute par rapport au concert, à cette vie-là. Et je me posais la question de savoir si cette musique qui vous avez choisie quand vous aviez 7 ans, est-ce que là, adulte, il y a eu de votre part le fait de choisir à nouveau la musique quand vous vous remettez en selle?
Oui, absolument. Et il faut toujours re-choisir, en fait. Parce qu'autrement, on est dans l'habitude. Encore une fois, on vit sur l'acquis, où on se dit, tiens, c'est ainsi. Voilà, c'est le tracé qui a été choisi, que j'ai choisi. Mais il faut chaque fois pouvoir le reconsidérer et dire, est-ce que c'est la voie juste? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce qu'on en vaut la peine? Je pense que oui. C'est ce que je voulais dire, en fait, par rester vigilant. Mais c'est bien. C'est comme quand on laisse une œuvre se reposer et qu'on la reprend. Et finalement, elle évolue à l'intérieur de vous. Malgré ces années de non-activité, si vous voulez, en sa compagnie, mais il faut toujours la réapprivoiser. On ne peut jamais reprendre ça et se dire, allez, voilà, maintenant, on recommence. Non, on ne recommence pas, on commence. Et mais c'est ça qui est intéressant sur la longueur, en fait.
Elle sera chargée.
Hein. Oui, c'est
voilà,
ça.
Voilà, chargée
c'est
ça. De tout ça. Aujourd'hui, vous avez eu cette expérience américaine, il y a tellement de choses. Et puis, à un moment, il y a eu un retour en Europe qui s'est fait. Après la création de votre centre, retour en Europe pendant quelques années entre Berlin et la Suisse. Mm-hmm. Vous aviez juste trouvé une forme d'équilibre, semble-t-il, au nord de New York. Et là, il faut redonner la priorité à la musique, mais il faut retrouver un nouvel équilibre aussi, non ? C'est là aussi une manière de re-choisir, de se remettre en selle, de réinventer.
Oui, mais c'est comme de choisir une autre voie de la même fugue. Donc on change juste de registre. Et donc les choses se renversent, mais je ne dirais pas qu'elles perdent nécessairement ni en importance, ni en relief, ni en relevance. Mm-hmm. C'est juste une autre dynamique. Voilà.
Une autre harmonie.
Une autre harmonie, si oui, effectivement. Une harmonie renversée. Et puis ça a été par amour aussi. Donc ce n'était pas seulement un concept. Alors, quand on parlait du fait qu'il faut avoir la chance que les choses se passent au bon moment, je n'aurais jamais pu être réceptive à quoi que ce soit si le centre n'était pas tout d'un coup en mesure de fonctionner justement, sans que je m'investisse dans le quotidien. Voilà, ça n'aurait pas pu se faire autrement. Donc c'était un premier seuil. Et voilà, il y en a eu d'ailleurs d'autres depuis.
Quand même, par amour, vous le disiez, c'est aussi l'homme qui partage votre vie, avec qui vous avez aussi fait des projets.
Oui.
Ce projet sur l'eau, notamment. Oui. Oui. Lui est photographe, oui. Donc c'est une manière de conjuguer l'œil, l'oreille et le cœur. Je vais dire le cœur, évidemment, ça vous regarde, mais le cœur aussi de penser notre monde.
Que voulez-vous que j'ajoute après ça?
Mais tout.
C'est moi qui dois vous interviewer. Oh, c'est beau, c'est très bien dit. On va laisser résonner ça comme ça.
Thank you. Et puis, mais vous êtes reparti aux États-Unis. Mais pas au même endroit, pas sur la même côte.
Si, d'abord nous sommes... Enfin, je suis repartie, je l'ai emmenée avec moi, donc au centre, South Salem, les premières années après l'Europe. Et après, c'est lui qui m'a dit, tu sais, quand je suis arrivée aux États-Unis pour la première fois avec mes parents, il a fait ce que beaucoup de familles allemandes faisaient, qui faisaient du tourisme aux États-Unis, c'est-à-dire on louait une RV, mobile home, comment appelle-t-on ça ? Une caravane, merci. Et ils ont fait le tour des grands parcs américains, les grands espaces de la côte ouest, jusqu'aux Rocheuses. Et donc, il est tombé amoureux de cet endroit. Et il m'a dit, tu sais, j'avais 16 ans quand nous sommes arrivés là pour la première fois. Et je me suis dit, un jour, je viendrai y vivre. Et donc, New York, c'était... c'était tout moi, en fait. Et quand il a émis ce désir de partir sur la côte ouest, moi qui suis... Bon, il ne faut pas me convaincre beaucoup non plus, parce que j'aime le changement.
Et les grands espaces.
Et les grands espaces. Donc, je me suis dit, bon, voilà, maintenant, alors, on n'en est plus à un voyage près. Dans la mesure où il faut passer au-dessus de New York pour aller en Europe, eh bien, je m'arrêterai chaque fois sur le chemin du retour. Donc, après tout, qui compte les jours, je veux dire, et les kilomètres, et les fuseaux horaires. Et alors, partons et on verra comment ça se passe. Et c'est ce que nous avons fait. Il y avait aussi un projet, il faut dire, avec des chevaux, Mustangs, qui se profilaient. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi m'arrêter là peut-être commencer un autre... projet là-bas, sans en quoi que ce soit être infidèle à celui d'origine. Voilà, donc ça, j'y travaille encore, mais petit à petit, ça commence à prendre forme. Voilà.
Et ça fait une boucle, évidemment, avec la Camargue, ces chevaux Mustang.
Oui, c'est ce que je pense également. Alors après, ça n'est pas la raison non plus, mais la vie a toujours cette façon comme ça de faire revenir les choses. J'ai toujours adoré ce côté comme ça cyclique. Alors là, il y a une résonance qui se crée. Alors on verra à quoi ça mène après.
Vous qui nous avez dit au début de notre rencontre que l'enfance n'était pas un paradis perdu, mais cette nature-là, par exemple, de la Camargue, ça, pour le coup, il y a peut-être quelque chose plus de cet ordre-là.
Ah oui, ça a vraiment donné le ton. Il faut bien dire, c'est quelque chose qui a permis un certain accord aussi, que je puisse m'accorder à moi-même, au reste du monde, et qui a beaucoup compté, même si je ne l'ai pas réalisé à l'époque. À l'époque, c'était un moment de rêve, encore une fois d'évasion, mais je ne réalisais pas la portée qu'il allait avoir.
France Musique, les grands entretiens d'Hélène Grimaud.
Et la transmission, on sent, est importante chez vous, parce que même avec ce centre, il y avait cette idée aussi d'embarquer dans le projet les jeunes, les écoles, etc. Et la transmission de la musique, est-ce que quand on a beaucoup reçu, on a le devoir de donner ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Est-ce que c'est un futur pour vous ?
Je ne sais pas. Alors, ça m'intéresse, mais j'ai trop de respect pour le métier d'enseignant, du fait que mes parents l'aient été. C'est une des professions les plus nobles qui soit, qui réellement peut changer les vies. Et donc, je trouve ça assez intimidant quand même. Je trouve aussi que c'est quelque chose qui ne peut vraiment s'établir que dans la continuité. Or, pour l'instant, mon rythme de vie est tel que ça ne serait pas possible. Je ne pourrais pas vraiment accompagner un élève ou des élèves... sur la longueur, ce serait quelque chose de plus sporadique. Alors, ça peut avoir son charme aussi. J'ai fait quelques masterclass, mais je pense qu'il m'intéresse plus, c'est le contact plus soutenu avec un élève. Dans le contexte de la masterclass, comme je l'ai dit, comme je l'ai écrit, ça dénature un peu cette communication directe, cette intimité avec l'élève où il peut se sentir complètement en confiance. Exactement. Oui. Donc, je ne me sens encore pas prête pour. Et puis l'enseignement, c'est comme un peu les gens qui s'imaginent. Alors, si on sait jouer du piano, on peut juste s'asseoir et improviser et faire du jazz. Non, le jazz, ça s'apprend, c'est comme le reste. Et tout le monde n'est pas fait pour être enseignant. C'est vraiment un don. Alors ça se développe aussi, mais je ne suis pas certaine de l'avoir, honnêtement.
Et par rapport aux compositeurs, on a évoqué Beethoven, ce cheminement qui va de Chopin à Liszt à Brahms, les compositeurs russes aussi, Rachmaninov, on aurait pu parler aussi de Prokofiev. Évidemment, dans toute cette galaxie, il y en a deux dont j'aimerais vous entendre parler, c'est Schubert et Bach. Quelle place ils ont aujourd'hui chez vous ? L'âge que vous avez aujourd'hui, après le chemin parcouru, est-ce que c'est spécifique ?
Bach, c'est quand même le quotidien, mais ça l'a toujours été. Je le dois à Pierre Barbizet. Sans cette musique, rien d'autre ne serait venu exister par la suite. Donc, et comme j'avais beaucoup songé au moment où Bach s'est matérialisé dans ma vie de concert, il a toujours fait partie de ma vie privée, mais la vie publique, j'ai quand même attendu assez longtemps. Mais cette idée que Dieu lui doit tant, c'est bien vrai. Donc c'est une présence quotidienne. Schubert, j'y travaille toujours. Mais Schubert, c'est la demi-teinte, c'est le... Je pense que ça a été mieux écrit que dit. Et je me souviens Guidon Kremer qui m'en parlait il y a des années, déjà à l'Open House, et qui disait « Oui, mais c'est quand même très curieux chez Schubert. » Cette idée que, quand on entend un passage en tonalité mineure, il s'en dégage une certaine sérénité, que ce soit par l'acceptance ou autre chose. Donc, on peut presque dire un bonheur, pas joie, mais bonheur. Et inversement, voilà. Les passages gais ne le sont jamais vraiment. Et vous pincent un peu toujours au cœur. Et voilà. Et ça, si je devais retenir une chose pour moi qui définit ce compositeur, c'est cette ambiguïté, cette ambivalence. Ces deux côtés du miroir. Et en même temps, ses œuvres, surtout ses sonates de la fin, qui font perdre repère au temps. Même quand la structure, quand l'architecture musicale est claire, à travers certaines de ces modulations, il y a des phénomènes harmoniques invraisemblables qui se produisent. C'est-à-dire que vous avez l'impression de changer d'univers et d'être vraiment ailleurs. Ça devient... c'est mieux que de la science-fiction.
Vous qui aimez beaucoup ce romantisme allemand, vous avez aussi évidemment travaillé le Lied. Je pensais aussi à votre travail avec Questorf, avec Von Otter. Et là, s'invite le mot, la dualité aussi. Oui. Est-ce que ça nourrit, par exemple, on pense à ces dernières sonates de Schubert, ou bien quand on pense à des œuvres de Brahms aussi, le fait d'avoir fait ce travail aussi, d'accompagner la respiration du chanteur, mais d'entendre aussi ses poèmes mis en musique.
Absolument, et de pénétrer cette syntaxe musicale et cette poésie du verbe, de l'organisation des notes aussi, c'est une dimension parallèle, c'est vrai, à simplement l'expression d'une âme ou d'un état d'âme, c'est très important. En même temps, mais ça, j'en ai refait l'expérience encore avec Constantin Krimmel, on en parlait avec Thomas Quasthoff quand on avait fait justement ce programme Schumann-Brahms avec Dichterliebe et l'Opus 32 et Liederkreis qui était prévu à l'origine. Pour autant que la poésie soit merveilleuse et musique elle-même, vous enlevez le texte à ces œuvres de Lieder, le sens reste. C'est incroyable. Par contre, vous amputez le texte de la musique, eh bien, je ne sais pas, vous allez dire que je suis partial, hein? Évidemment, mais ça ne résonne plus de la même façon. Ben, c'est pour ça, moi, j'ai toujours dit que la musique est l'art le plus intense qui soit, je pense, parce que c'est le plus instinctif, en fait. Et comme tout ce qui dépasse le langage, c'est beaucoup plus fort. Ça vous prend aux tripes, ça vous transforme littéralement.
Parler aussi dans ce livre, je trouve très beau, moi, cette idée aussi de la danse. Mm. Pas de la danse en tutu, de la danse même avec des grosses bottes. Mais cette manière aussi de faire danser son corps au son intérieur des pièces travaillées, si j'ai bien compris.
Oui. Alors attention, je ne m'exhiberai pas à faire ça non plus.
Ah, c'est un plaisir solitaire.
Un plaisir solitaire, voilà. Mais ça, c'est quelque chose que je dois aux chevaux, parce que même avec le contact animal, on est quand même très libre, on est par terre, on se roule avec, que ce soit un chien ou un loup, peu importe, ça n'est pas la question. Il y a un côté évidemment très physique, donc déjà le corps devient langage, puisqu'il n'y en a pas d'autre avec eux. Alors, il y a ce qui émane de vous, il y a le fait qu'ils sont tout à fait capables de lire, non seulement capables, mais ils le font en permanence, ce qui vient de votre âme, du plus profond de votre être. Mais en fait, chez moi, ça s'est développé plus avec les chevaux, où le mouvement fait partie du langage. Là, ça n'est pas seulement la position du corps, les expressions du faciès, tout ça. C'est l'expression des yeux, qu'ils soient durs ou liquides. Enfin, il y a toutes sortes de couleurs possibles chez les loups, par exemple, mais de textures aussi. Mais avec les chevaux, il y a quelque chose qui est effectivement très physique, quelque chose qui est de l'ordre du rythme aussi, de la synchronisation du mouvement. Mm-hmm. Parce qu'en fait, on est tellement piégé de tous les côtés, à commencer par son propre corps, et si on arrive à le faire comme ça, résonner au rythme de la terre et à le faire vibrer dans son environnement, à l'air, il y a quelque chose de primal, pas de primitif, mais dans le plus noble sens du terme. Alors que enfant, en Camargue, ça avait eu lieu, mais je m'étais à peine rendu compte de ce qui se passait. Ça m'est revenu après, où je me suis dit, tiens, en fait, ça m'avait manqué. Je ne m'étais même pas rendu compte que ça avait disparu de ma vie. Et là, c'est revenu par ce contact. Vous voyez ce que je dois tout à tout le monde, qu'ils soient humains ou animaux, musique ou poésie, finalement, c'est ça qui nous rend à nous-mêmes et qui fait que l'on devient... dans le meilleur des cas, ce qu'on est capable de devenir, encore il reste beaucoup à faire, donc on n'y est pas encore.
Le prélude de la troisième partita de Bach arrangé par Rachmaninov sous les doigts d'Hélène Grimaud.
Et c'est ainsi que se termine cette série des grands entretiens avec Hélène Grimaud, réalisation Adrien Roch, prise de son Morgane Danan, mixage Dofar Guéride, attaché de production Marie-Christine Ferdinand, une série proposée par Judith Chen, série disponible en podcast sur l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.